with the Attorney General. We're going to the offices to make sure that they know that if you mess with one of us, like Lisa said, you mess with us all. Yeah! You mess with one.
You mess with us all.
You mess with one.
You mess with us all.
Two cities.
Four cities.
Four streets.
Four streets.
Three cities. Three cities.
Hey, bonjour, bonsoir, bienvenue sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste de la nuit. Cette semaine, comment ne pas faire un retour sur la marche mondiale des femmes? On a d'ailleurs un reportage de 12 minutes 44 secondes à ce sujet qu'on a ramené de Rimouski. On a aussi notre chroniqueur à la droite populiste qui va nous parler de trucs théoriques.
Oui, de libéralisme et de républicanisme.
Ouais, notre chroniqueur en question, il s'appelle Stéphane. Moi, je m'appelle Nicolas, puis je suis aussi avec...
Chani.
Et Farouko.
Oui, donc, on a entendu, en fait, de charmants bruits de manifestation. On va en parler, en fait. C'est à Toronto, la justice qui s'acharne contre un militant. Et sinon...
Je vais parler d'un maquilleur qui est accusé de corruption des mœurs, puis aussi d'un néo-nazi écossais qui a été reconnu coupable d'assassinat criminel, puis de la ville de Montréal qui est poursuivie pour $500,000 par rapport au décès, par rapport au taser.
Alors, ici, c'est ce qu'on va avoir cette semaine. On a aussi beaucoup de musique, je pense. Hein?
Ouais, puis moi, j'ai une spéciale dédicace cette semaine à tous les policiers qui manifestent. J'aurais donc aimé ça avoir une matraque aujourd'hui. Alors oui, on va continuer avec The Clash, avec Guns of Brixton.
Hey, rebonjour, vous êtes toujours sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Alors, en introduction dans le thème, on entendait des bruits de manifestation. Ça aurait pu être partout dans le monde, mais c'était à Toronto. Et en fait, c'est pour introduire mon premier sujet. Peut-être que vous vous souvenez, peut-être pas aussi, d'Alex Undert. On en avait parlé il y a quelques semaines. C'est un militant torontois, un anarchiste, qui s'était fait arrêter juste avant le G20 parce qu'il a participé à un... Non, en fait, il s'est fait arrêter juste avant le G20 et accusé de complot parce que c'est un des organisateurs des manifestations contre le G20. Il était resté en prison relativement longtemps, plus d'un mois en fait. Finalement, il a été libéré avec des conditions un peu débiles qui l'empêchaient en fait de communiquer avec ses co-accusés, dont sa conjointe, qui le mettait en résidence surveillée, lui imposait une caution de 100 000 $ et tout et tout. Et puis lui, on en aurait entendu parler beaucoup parce que, c'est un organisateur politique, fait que c'est pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche et il a pas pour habitude de vivre de façon silencieuse et paisible et de pas se faire voir par les autorités. Et donc, il avait fait plusieurs entrevues quand il était sorti de prison pour parler de ses conditions de détention, pour parler de son cas et tout et tout. Et la police était revenue en disant « Par la Radio-Canada, dans le fond, ça va un peu contre tes conditions de remise en liberté, puisque dans tes conditions de remise en liberté, il y a le fait que tu ne dois pas participer à des public protests. Donc, ce qui, traditionnellement, se traduit par manifestation publique. Or, dans le... En anglais, protest, c'est pas juste une manifestation, ça peut être en fait toute forme de protestation. Et effectivement, si tu protestes contre tes conditions puis contre le procès qu'on te fait, ben tu protestes. Et il y avait un juge qui avait dit bon, non, ça n'a pas bien de bon sens. Et puis là, ça en était resté là, sauf que au mois de septembre, il a participé à un panel dans une université, à l'université de Ryerson, avec des profs d'université pour... en fait, c'est un panel sur... ça s'appelait Strengthening Your Resolve, c'est-à-dire c'est un panel qui portait en fait sur le mouvement contre le G20 et qui disait que finalement les différents courants qui étaient présents dans le mouvement altermondialiste, dans le mouvement anticapitaliste ontarien, devaient s'appuyer mutuellement, alors et qu'il n'y avait pas de raison qu'on accepte les divisions fomentées par la police entre les radicaux et les réformistes. Et donc, ça l'a pas plu du tout aux autorités. En fait, il avait même lancé un défi du stage en disant « S'ils sont pas contents, ils viendront m'arrêter ». Et c'est ce qui est arrivé en soirée.
Donc, il a été entendu.
Il a été entendu. Ça arrive pas souvent, mais son vœu est exaucé. Et il a été arrêté par des agents de police lorsqu'il retournait en fait à la résidence de son père, parce qu'il est assigné à résidence chez son papa, même si c'est un homme majeur et vacciné.
Vu qu'il n'a pas le droit de parler à sa blonde, ça...
Ouais, non, c'est ça. Et la police, en fait, assimile ça à une manifestation, et on se demandait qu'est-ce qui se passerait avec ça. Et bien voilà, la Cour a finalement statué que la police a raison. C'est effectivement une manifestation de participer à un panel à l'université, et c'est pour ça qu'on entendait la manifestation qui a eu lieu. En fait, c'est une manifestation qui avait été organisée à l'université de Ryerson par des sympathisants qui disaient, en fait, plutôt que le fameux « This is what democracy looks like », qui est le slogan fort depuis Seattle, cette fois-ci, c'était « This is what a demonstration looks like », pour bien expliquer aux autorités ce qu'était une manifestation. Et là, on lui a remis de nouvelles conditions de remise en liberté qui ont été imposées, en plus donc d'être en résidence surveillée avec un couvre-feu, de pas pouvoir s'associer avec les groupes dans lesquels il militait, de pas pouvoir organiser de manifestations ni y participer. Maintenant, il n'a plus le droit de publier directement ou indirectement sur Internet, d'aider, de planifier ou d'assister à une réunion publique ou d'exprimer un point de vue politique à quiconque, y compris les médias.
Waouh!
C'est quand même quelque chose.
Il n'a plus le droit de faire grand-chose.
Donc, Undert n'a pas le droit de donner son opinion, il n'a pas le droit d'apparaître dans les médias. C'est à toute fin pratique un bâillon légal, une suspension là, pure et simple d'une grande partie des droits et libertés qui, théoriquement, sont garantis à tous les citoyens dans la Charte canadienne des droits et libertés. C'est une première depuis longtemps. Et à l'origine, pour ajouter l'insulte à l'injure, Alex Undert, il voulait refuser de signer ces conditions-là, et donc on l'a remis en prison. Sauf que, rendu en prison, on l'a mis, comment qu'on appelle ça, en isolement, au trou.
Parce qu'il n'a pas le droit de parler à quelqu'un,
de toute façon. C'est pas juste ça, c'est qu'on disait, le fait de refuser de signer tes conditions de remise en liberté, c'est un acte d'insubordination. L'acte d'insubordination dans le régime pénitentiaire est puni par l'isolement. Et donc, on lui disait qu'il allait rester là tant qu'il ne signerait pas. Après 24 heures sans communication aucune avec l'extérieur et sans savoir non plus quand est-ce qu'il pourrait parler à son avocat, parce que tu n'as pas le droit de téléphone au trou, le militant, finalement, il a craqué puis il a signé les dites conditions en se disant « Au pire, je vais les contester. » Et donc, dans un mois, il va repasser en cour pour les contester. Tout ça arrive alors qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont été arrêtées à Toronto qui voient leurs accusations trompées. Il y a, par exemple, au moins trois organisatrices de la CLAC qui avaient été arrêtées en même temps que Alex Sandert à la veille du G20, qui étaient accusées de possession d'armes, de complot et de, en fait, des grosses accusations solides, qui avaient des cautions solides aussi de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, les accusations sont tombées. Il y a d'autres personnes de la CLAC comme Jaggy Singh, Patrick Adorette, dont les accusations sont pas tombées. En fait, ça va assez loin. Dans le cas de Patrick Adorette, il y a même un... on a communiqué la preuve à son avocat avec l'interdiction formelle de la communiquer à son client. Parce que il pourrait, ça pourrait être dangereux parce qu'il y a des rapports d'infiltration dans le truc. Et donc, il y a un agent infiltré. À partir du moment où il y a un agent infiltré, bon, c'est peut-être des dispositions qui, dans le cas de la lutte antiterroriste, peuvent être pertinentes. Mais, ou dans la guerre de la drogue, je sais pas. Dans le cas de l'infiltration d'un groupe altermondialiste, enfin bon, on pourrait revenir sur la question.
Donc, en toujours est-il traité comme un terroriste, hein,
ben oui, ben oui, c'est clair. Ben. Et donc, faute de preuves, la couronne abandonne de plus en plus de poursuites. Elle abandonne aussi contre les 70 personnes qui avaient été arrêtées là, dans un dortoir de l'Université de Toronto. Et donc, mais en même temps, elle continue de s'acharner contre ceux qu'elle considère comme étant les têtes du mouvement. Tout en refusant de leur communiquer la preuve. Donc, ça va être un procès qui va durer longtemps. Et c'est ce cas-là. Et il y a aussi d'autres cas. Là. Il commence à y avoir d'autres cas qui refont surface. Entre autres, il y a des gens à Montréal, des militants connus, qui avaient été relâchés sans accusation, qui ont eu des mandats d'arrêt finalement, puis que une étude plus approfondie en fait des événements pousse la police à vouloir les accuser, à vouloir leur remettre des... Donc il y a des étudiants de l'UQAM, entre autres, qui ont été obligés de se rendre à Toronto, de se rendre à la police parce qu'ils étaient sous mandat et qui n'ont été libérés qu'avec des cautions de plus de 10 000 $. Et là, ça, c'est ça. Il est comme, on dirait qu'ils sont en train là, de recréer un nouveau groupe de gens un peu plus crédibles là, que les 1100 personnes qui avaient arrêté au hasard. Et donc, c'est ça qui se passe en ce moment à Toronto. Alors voilà, on peut dire que 40 ans après la crise d'octobre, le Canada a maintenant ses propres dissidents qui ont juste le droit de se taire. Il y avait un livre qui était sorti dans les années 80 qui s'appelait sur les communistes, qui s'appelait Le droit de se taire. Et voilà, maintenant on revient à ça. Puis comme dans le temps des glorieuses démocraties populaires d'Europe de l'Est, on a nos propres dissidents. Donc tout ça, si vous voulez en savoir plus, là, évidemment les anglophones ils en parlent beaucoup, les francophones un peu moins. Bon, des fois il y a des trucs qui sortent dans la cyberpresse quand la CLAC fait une sortie de presse, mais pas plus que ça. Mais nous on a mis une vidéo, le Real News Network qui a fait un reportage d'une dizaine de minutes, précisément sur le cas d'Alexander, là, pas sur l'ensemble des cas. C'est en anglais, mais c'est disponible sur le blog de Voix de fait. Si vous allez voir, là, ça a été publié dimanche. Donc voilà. C'est ce que moi j'avais à dire sur ce sujet. Et je crois que Janie a d'autres joyeusetés à nous parler au sujet du Canada, même ouais. Du Québec. Cette fois?
Ben, du Québec, je vais commencer par le poursuivre envers la ville de Montréal. C'est la succession de Guillaume Rogis qui est mort deux jours après avoir reçu 6 décharges de taser en octobre 2007 qui réclame 500 000 $ à la ville de Montréal aux deux policiers qui ont été impliqués dans l'arrestation. Le 14 octobre 2007, lui, il a brûlé un feu rouge dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Puis plutôt que s'arrêter, l'individu il a continué puis a accroché les voitures. Et bien, les policiers, quand ils l'ont intercepté, étaient très agités. Puis vu qu'il était agité, ben un des policiers, Steve Thibert, a crié à son collègue Yannick Bordelot d'utiliser son pistolet électrique. M. Bordelot aurait donné une décharge à mesure juste dans le lieu donne des mains, mais comme le gars était trop agité à cause qu'il était sous l'effet de l'alcool et de la cocaïne, ben il a donné 5 autres décharges de taser. Puis cet homme-là, il était père d'une fille de 13 ans qui vivait en maison de transition là, à cause d'une peine de vol. Puis il a été transporté à l'hôpital, mais il dit qu'il avait juste remis une dent cassée et un peu de sang à la bouche. Il n'avait pas de blessure apparente. Mais son état s'est tellement détérioré qu'il a fallu quelques opérations, puis il est mort deux jours plus tard. Ça, dans le fond, la coroner avait dit qu'ils disent que les décharges de pistolets électriques, ça n'avait pas causé de décès, que ça n'avait pas possiblement contribué, Puis quand on sait qu'il a reçu 300 000 volts en tout en moins d'une minute, puis qu'il y avait le foie, le côlon, l'intestin grand nécrosé, je pense que ça, c'est clair que...
Donc, c'est un peu comme un coca sagnetta, mais à Montréal.
Ouais.
Super. Ils vont peut-être finir par les retirer, ces pistolets-là, on ne sait pas.
Castagnetta à Montréal, oui. Mais eux autres, ils vont toujours se défendre en disant « Ben, c'est ça, ou ben, les vraies balles, monsieur. Hein? »
Ouais, non, mais écoutez, c'est pas le taser qui l'a tué, c'est la crise cardiaque qu'il a pris après.
Ouais, c'est pas les 300 000 volts, c'est l'alcool et la drogue.
Ouais, sinon,
sauf qu'on s'entend que la coke, la cocaïne, ça te brûle pas un foie, là.
D'habitude, non.
Ben,
on va trouver à très long terme.
Ouais, mais pas sur le coup, là, t'sais. C'est comme, tu peux te ramasser le foie noir, là, ou t'as reçu quelque chose, mettons, là. En tout cas, puis là, c'est ça, aussi à Montréal, c'est un maquilleur, dans le fond, qui a un maquilleur autodidacte, Rémi Couture, qui se retrouve face à des accusations de... trois accusations de corruption de meurtre par distribution de matériel obscène. Lui, dans le fond, c'est un autodidacte qui est sur ses doigts personnels, parce qu'il doit consacrer à l'horreur, qui présentait des photos, genre, dans le fond, une fiction... sur l'univers
de... Il crée des scènes de meurtre.
C'est ça, de tueurs en série, mais c'est pas des vrais crimes, c'est des crimes qui sont inventés. Puis lui, c'était fait... dit que
c'est des décors.
C'est ça. Ben, tu sais, il dit qu'il s'intéresse à cette forme artistique depuis 4 ou 5 ans. Puis il dit qu'il considère ses productions comme une carte de visite, un portfolio pour sa propre promotion, parce qu'il était autodidacte, qu'il n'a pas nécessairement suivi le cours pour ça. Quoique, je sais pas si ça... L'ABC du cinéma gauche, je pense pas que ça te donne dans les écoles, là. En tout cas.
C'est encore drôle.
Non, c'est ça. Là, c'est les productions en ligne. Ce sera en ligne depuis déjà quelques années. T'sais, il a commencé à avoir des problèmes quand Interpol, une police internationale, il a été à la police de Montréal. Au mois d'octobre 2009, M. Couture a reçu sur son site un message d'un co qui voulait obtenir ses services pour Halloween. Je sais pas trop, hein, qui c'est qu'il voulait, peut-être des maquillages, je sais pas trop, ils ne disent pas. M. Couture a répondu que les clients sont venus chez eux, puis dans le fond, c'est des agents doubles de la police qui l'ont arrêté. Ils ont perquisitionné son domicile, ses objets, mais ça a pris plus d'un an avec le ministère public pour des accusations.
Ouais, mais à l'origine, Interpol, c'est parce qu'il était pas certain que c'était du maquillage.
Ouais.
C'est pour ça qu'il avait mis la police là-dessus.
Mais là, les accusations, c'est quoi?
C'est, attends une minute. Accusation de corruption de meurtre par distribution de matériel obscène.
Corruption des mœurs?
Ouais.
Ouais, mais en fait, c'est des vieilles dispositions du Code criminel canadien. C'est un mix de trucs liés à la pornographie, puis de trucs liés... en fait, il semble qu'il est interdit de... il est interdit de créer une fiction qui donnerait l'impression que c'est un crime. Il est interdit de reproduire un crime, finalement, parce que ça pourrait donner des idées. Mais ça, c'est des vieilles affaires qui datent des années 30, qui n'ont pas été mises à jour.
Ils ont-tu reconstitué la brigade des mœurs?
Quasiment,
non? C'est quasiment, tu sais, si on regarde des films qui sont passés au cinéma, si on regarde des cadences sur l'auberge du Hostel en anglais, c'est au pire, là.
C'est vrai, surtout mais les films qui ont des mœurs dedans,
Vu que ça vient de là-haut, ben ça c'est correct, mais lui, il se ramasse en cause.
Ouais, mais quand c'est sur Internet, c'était peurant, tu sais.
Mais le film, tu peux le downloader, fait qu'il est sur Internet, techniquement.
Ouais, mais si ça passe au cinéma, c'est correct, mais si c'est sur Internet, ça passe pas.
Il y a quand même des artistes, plusieurs artistes qui le soutiennent.
Ouais, puis il est appuyé par Richard Desjardins, comme dit Jean-Louis Poulin, Patrick Sonnecal, qui est quand même des affaires assez gore, quand même, c'est un écrivain québécois.
Ouais, lui aussi.
Puis réalisateur Simon Olivier Fecteau, puis Éric Tessier aussi.
Mais pas Rémi Gérard aussi, je pense.
Hum? Ouais.
Il me semble qu'il y avait Rémi Gérard aussi, une couple d'autres.
Non,
ça, c'est ceux dans cet article-là, c'est ceux autres qui l'ont.
Il y en a quelques-uns qui sont nommés, là, mais. C'est ça. Fait que là, la date du procès reste à fixer, donc c'est ça. Là, son avocat a demandé un projet devant jury, puis c'est ça, ça reste à voir. Mais j'espère juste que c'est devant jury qu'il va avoir plus de jugeote que les procureurs.
On espère.
Oui, pour la dernière affaire, j'ai fait une erreur tantôt. J'ai dit que c'est un néo-nazi écossais. C'est un néo-nazi néo-écossais. C'est un gars...
C'est canadien.
Oui, c'est ça. Justin Reber qui reconnaît qu'il a brûlé une croix devant la maison d'un couple interracial. Mais que,
c'est une vieille histoire, on en avait parlé.
Oui, ouais, c'est ça, on avait déjà parlé de l'émission. Dans le fond, il était reconnu coupable d'assassinat criminel parce qu'il avait brûlé une croix de 2 mètres devant la maison d'un couple interracial que la femme...
Attends, le mec, il a amené une croix de 2 mètres tout seul.
Il y a Nathan Reber, qui est son frère, qui est accusé d'harcèlement criminel, d'incitation à la haine, de méfait, d'avoir profité des menaces lors du même incident. Mais lui, son procès va commencer le 10 novembre.
Okay. Parce que lui, il reconnaît pas les faits, en fait.
Bah, ben, tu sais, lui, dans le fond, il dit qu'il est retenu coupable, mais tu sais, il dit que c'est pas un geste d'incitation de la reine, tu sais.
Non, c'est un geste de bienvenue.
Ouais, c'est ça, tu sais. C'est
comme un feu de joie.
Ouais, c'est ça. Sur Radio-Canada, ben, t'as des commentaires, le monde fait commenter, puis quelqu'un qui dit, bah, ben, c'est quoi d'avoir un geste de paix d'amour,
c'est comme... Non, mais c'est ça. C'est un Somalien, hein, c'est ça, la personne qui a eu.
C'est pas marqué. Il dit qu'il est noir, mais il dit c'est pas de où, en fait. Ça, c'est les faits remontent au 21 février dernier. Ça fait un bout. Les couples formés de Michelle Lyon, Blanche de Chine, oh, un noir avait trouvé ses croix hautes de 2 mètres devant sa maison à Poplar Grove, en Nouvelle-Écosse. Dans un exposé conjoint des faits, Redbert René qui a assemblé cette croix, qui l'a enduit de produits inflammables et qui a mis le feu. La défense de la couronne reconnaît quelqu'un a ensuite crié une insulte raciste qui doit être son frère par rapport à ses accusations.
C'est trop joli comme celle, en tous les cas.
C'est
ça aurait sûrement inspiré le maquilleur de tantôt. Là.
Ah, c'était une décoration de Noël, au fond, mais en retard.
Ouais. La couronne juge qu'il s'agit d'un geste de cessation de la haine, mais la défense soutient qu'il n'y a aucune preuve de ça. Puis si on se rappelle ça, ouais, c'est ridicule. Mais là, tu sais, c'est comme des avocats inoués, des fois. Inoués. Mais si on se rappelle ça, ça vient de où? Ça vient du coca. C'est comme clair.
Mais non, mais c'est ça, mais sauf que... Oh là là...
Bon. C'est sûrement pas un message d'amour, en tout cas.
Ah, mais je me souviens, il me semble que quand on en avait parlé, là, on dit que les autorités avaient été plutôt lentes à réagir sur la question, puis que finalement, c'était comme une série d'incidents, puis ça, c'était la goutte qui avait fait déborder
le
vase.
Derniers, genre.
Puis que les voisins avaient fait que, ben là, ça va faire. C'est un tout petit village, genre, il y a un noir dans le village, puis il y a un imbécile heureux qui a décidé de rendre la vie impossible.
C'est voilà. Fait que là, lui, ils disent qu'il était reconnu coupable, mais ils parlent pas, ils ont pas dit encore où c'est que c'est quoi, ça va être quoi sa sentence.
Bon, sur ces joyeusetés, t'en avais 3, c'est ça?
Oui.
OK. Juste avant de passer en musique, je voulais vous dire, j'aurais aimé ça parler de la grève générale, mais j'ai pas eu le temps. En France, en ce moment, il y a une grève générale. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Quand même assez importante. En fait, si on regarde ça, là, ça commence à brasser sérieusement, à chauffer. Ben, puis là, Sarkozy a envoyé la police anti-émeute pour débloquer les raffineries, semble-t-il.
Oui.
Bon, je sais pas, un coup
Sarkozy qu'ils vont être... s'est comme transformé en maître des scabs.
Ouais, c'est ça. Je sais pas trop, là, un coup que ça va être... parce que semble-t-il qu'ils ont le droit de grève, mais pas le droit de bloquer. Pas le droit de faire des piquets. Parce que le droit de grève est un droit individuel qui s'applique collectivement. C'est ce que j'ai lu dans Le Monde. On peut poursuivre quelqu'un et l'amener en prison s'il fait un blocage, parce que le piquet de grève est formellement interdit dans le droit français. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que la grève générale n'a jamais été décrétée, mais qui est en train de devenir illimitée. Après plusieurs journées d'action, là, avec des 3,5, 4 millions de grévistes dans les rues, sous la pression de la base, là, c'est en train de devenir tranquillement pas vite une grève générale illimitée. Puis on est pas mal rendu à l'étape où normalement les gouvernements français ils flanchent. D'habitude, rendu là, il recule. Parce que les étudiants se sont mis de la partie, les profs se sont mis de la partie.
Il n'y a plus d'essence.
Il n'y a plus d'essence aussi, oui, ça aide pas. Il n'y a plus de train, il n'y a plus d'avion. Y a plus... 50% des vols sont annulés. Je ne sais plus combien de pourcentage de trains. Et donc, on se dirige vers un nouveau novembre-décembre 95, finalement. Probablement avec un nouveau recul sur ça. En fait, il y avait le Guardian qui disait en analyse que... soit le mouvement allait se durcir, puis le gouvernement allait être obligé de prendre son trou, soit Sarkozy allait aller de l'avant, mais allait perdre les prochaines élections. Et donc, c'est les deux possibilités.
C'est pas tout à fait vrai, la deuxième opportunité. La deuxième possibilité n'est pas si vraie que ça. Les gens n'ont pas de mémoire pour les prochaines élections, c'est 2012.
Ouais, quand même. Mais, en tout cas, bref, tout le monde regarde ça avec attention, parce que si Sarkozy passe en force, là, ça va hypothéquer les luttes populaires dans toute l'Europe contre les plans d'austérité. Puis un peu tout le monde regarde ça en se disant « Ouais, bon, si les Français sont pas capables de les stopper, personne qui va être capable. »
D'ailleurs, on sent bien le mandat international de Sarkozy là-dessus. Hein. Quand il dit que la réforme est nécessaire, c'est parce que c'est vraiment une grosse vague de réformes néolibérales qui s'abat sur l'Europe.
C'est évident, puis c'est clair que le Conseil de l'Europe, il regarde ça, puis ils ont chargé sur les Roms, là, mais là, ils n'en parlent plus. Hein.
Non. Comment ça va faire l'objet d'un petit bargain, d'ailleurs, ça?
Ouais. Puis, donc, ça, bref, Toujours est-il que j'aurais aimé ça vous en parler, mais j'ai pas le temps de vous en parler. C'est pour ça que je vous en parle pareil, comme on peut le constater. Ce que je voulais vous dire, c'est que Alternative Libertaire, l'organisation là, de laquelle on est la plus proche en France, bon, faisait des tracks, faisait plein de matériel là-dessus, mais là, a commencé à faire une mise à jour quotidienne sur son site de toutes les informations qui lui viennent d'un peu partout en France sur les blocages et tout, comment ça se passe. Et donc, c'est le www.alternativelibertaire.org. Et si jamais il n'y a pas si jamais ça tient encore debout la semaine prochaine, on va essayer d'avoir quelqu'un d'Alternative Libertaire pour faire une entrevue là, sur cette situation-là, parce que bon, disons-le, c'est pas banal là, ce qui se passe là, en ce moment.
Non, effectivement, puis même c'est un mouvement qui est vraiment intéressant parce qu'il est soutenu ni par le Parti Socialiste, plus ou moins socialiste, et il n'est pas soutenu non plus par les syndicats, donc c'est vraiment la base qui a vraiment
décidé de prendre la rue pour manifester. C'est les syndicats, ils sont à la fois ils veulent pas... Il y avait le Figaro qui titrait que les syndicats et Sarkozy craignaient la radicalisation. En fait.
Ils ont peur ensemble.
Mais ouais, les syndicats, ils ont la chienne, en fait.
Ouais, ben, en fait, il y a juste Sud qui pousse. Ben, puis la CNT, là, mais bon, on s'entend.
Les autres ont négocié rapidement.
Ouais, non, c'est ça. Par contre, la CGT est mal pris parce que la CGT est encore fédéraliste. Elle n'est pas centralisée comme d'autres centrales, mettons ici. Et donc, pendant que la CGT au national essaie de négocier une sortie de crise, au niveau de ses branches, parce que c'est la CGT qui bloque les raffineries. Mais c'est parce que la Fédération de la chimie de la CGT, eux autres, ils veulent pas que la réforme passe parce qu'il va y avoir plus de cotisations. Et c'est la CGT qui bloque les ports. Mais c'est parce que les syndicats de dockers de la CGT, ils disent, nous, on a un métier pénible. On veut pas travailler 2 ans de plus. Et donc, c'est ça. Finalement, la base de la CGT est en train de forcer la CGT à faire la grève générale sans toutefois le déclarer. Donc, on va essayer d'en savoir plus la semaine prochaine en ayant quelqu'un d'Alternative Libertaire. En attendant, on a de la musique, hein?
Oui, on a ta demande spéciale. On a du Kenny Arcana.
Youhou! Alors, c'est le rap a perdu ses esprits. C'est tiré de l'album L'Esquisse.
Et le rap, l'ennemi que tu contestais à tes débuts, t'as récupéré. Et tes soldats se tirent dessus, ont perdu de vue leur mission et leur camp. Ont oublié que peu d'entre nous ont la parole et qu'elle est rare. Qu'elle peut faire mal comme elle peut soulager. Qu'elle peut abattre l'espoir ou crier le mal d'un peuple ou crier qui t'a outragé. Représenter ces idées ou ceux d'une génération perdue, bien consciente, ça tourne par rond ici. L'espoir dans le cœur des miens s'épuise net, mais gardons la foi qu'un nouveau jour puisse naître. On peut pas changer le monde, ça c'est sûr, si on se le dit, on peut le changer à son échelle. Déjà, c'est toujours mieux que le subir. Et toi, le rap, tu as oublié ce qui faisait ta force. Et le rap, retourne pas ta veste, ta contestation est dans le fossé. Et le rap, réveille-toi, je sais que t'es pas mort, juste hypnotisé. Par l'ennemi, celui qu'à la base tu maudissais. Le rap, certains ont besoin de toi en bas. La voix des oubliés, souviens-toi, le combat est rude et beaucoup croient en toi, en ton intégrité, tes revendications. Mais le rap, tu es libre, donc prends-le comme une invocation. Ces esprits, impossible à raisonner un peu comme hypnotisé, à croire que les jolies paillettes l'ont impressionné. Récupérer dans leur camp pour mieux l'emprisonner. Et le rap, tes soldats s'entretuent, n'oublie pas de la mission. Ces esprits, impossible à raisonner un peu comme hypnotisé, à croire que les jolies paillettes l'ont impressionné. Récupérer dans leur camp pour mieux l'emprisonner. Tes soldats s'entretuent, n'oublie pas ta mission et j'ai rap au parleur de ceux qui ne représentent rien aux yeux du monde. Indomptable, mais ta fougue s'est sauvée dans les cieux. Amadoué, changeant radicalement de discours. Rappeur capitaliste, focalisant sur ses ventes de discours. Sont passées tes valeurs, car ta parole une flèche. Mais ta cible devenue invisible, ça tire dans tous les sens. Et merde, et le rap, t'as perdu de vue ta lutte en bourgeoisie. Ton petit confort avant tout, hein, c'est sûr que là t'es plus pourchassé. Mais fais gaffe, car ils aimeraient déraciner, te dénature en déviant tes principes en toi. Un produit là signé en fait. Faudrait juste que tu reprennes position. Mais le rap, tu es libre, donc prends-le comme une rap position. Ces esprits, impossible à raisonner un peu comme hypnotisé, à croire que les jolies paillettes l'ont impressionné. Récupérer dans leur camp pour mieux l'emprisonner. Et le rap, tes soldats s'entretuent, n'oublie pas de la mission. Et j'ai ces esprits, impossible à raisonner un peu comme hypnotisé, à croire que les jolies paillettes l'ont impressionné. Récupérer dans leur camp pour mieux l'emprisonner. Et le rap, tes soldats s'entretuent, n'oublie pas ta mission. Et j'ai pas connu l'enfance du rap, je suis arrivé à son adolescence. Cette période sans limite, tout le modo s'il n'a pas trop de sens. C'est le cœur qui compte autant que sa vérité. Fidèle à sa cause même s'il se faisait traiter de sale irrité. Depuis il a bien changé, devenu un bon adulte bien intégré. Commençant même à oublier d'où il vient. Ou snob, ne parlant que de fiesta et de liasse. Mais le combat est ailleurs, loin endormi le rap et devenu devenus mondains et lassés. Rap, réveille-toi, reviens avec nous. Tu es ben un mouton à la base, mais un résistant qui représentait la souffrance des incompris, le mal de ce monde, les erreurs d'un système pourri. Oh oui, ton rôle était noble, la voix du peuple, la rage des minorités. Mais aujourd'hui seul, le style, la gloire et l'argent sont tes priorités. N'oublie pas ton combat, n'oublie pas ceux d'en bas. Mais le rap, tu es libre, donc prends-le comme un conseil d'âme. Perdu ses esprits, impossible à raisonner un peu. Comme hypnotisé à croire que les jolies paillettes l'ont impressionné. Récupéré dans leur camp pour mieux l'emprisonner. Et le rap, tes soldats s'entretuent, n'oublie pas ta mission. Perdu ses esprits, impossible à raisonner un peu. Comme hypnotisé à croire que les jolies paillettes l'ont impressionné. Récupéré dans leur camp pour mieux l'emprisonner. Et le rap, tes soldats s'entretuent, n'oublie pas ta mission. Perdu ses esprits, impossible à raisonner un peu. Comme hypnotisé à croire que les jolies paillettes l'ont impressionné. Récupéré dans leur camp pour mieux l'emprisonner. Et le rap, tes soldats s'entretuent, n'oublie pas ta mission. Esprit, impossible à raisonner un peu. Comme hypnotisé à croire que les jolies paillettes l'ont impressionné. Récupéré dans leur camp pour mieux l'emprisonner. Rap, tes soldats s'entretuent, n'oublie pas ta mission et ja. Qui prétend faire du rap sans prendre position? Qui prétend faire du rap sans prendre position? Qui prétend faire du rap sans prendre position? Et le rap, tes soldats s'entretuent, ont perdu leur mission. Qui prétend faire du rap sans prendre position? Qui prétend faire du rap sans prendre position?
Et donc c'était Kenny Arcana sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de Fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Alors, je sais pas si vous le savez, mais la fin de semaine dernière, il n'y avait pas que la canonisation du frère André à Rome, avec laquelle on nous a rabattu les oreilles, effectivement. Semble-t-il que les médias traditionnels, on en parlait 1600 fois plus que les médias sociaux. Donc, autrement dit, les gens sur le web, ils s'en foutaient.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué,
s'en foutaient même, en fait, en général.
Mais il y a une guerre actuellement, là, une guerre de mots entre tous les médias traditionnels et les médias sociaux. Là. C'est fou, c'est la thématique des dernières semaines, surtout Radio-Canada, un peu TVA. Les médias sociaux, c'est le Far West, ils ont besoin d'être harnachés, tu sais, c'est le bordel, il faut faire quelque chose. C'est à cause de eux, si on rapporte des fausses informations qu'on doit démentir après, c'est vraiment à fond.
Pas leur job, ils vérifient pas, mais c'est à cause des médias sociaux qui ont annoncé la mort de Pat Burns, d'ailleurs. Tout le monde le sait. Toujours est-il que c'était ma tentative d'introduction pour la Marche mondiale des femmes qui avait lieu dimanche dernier à Rimouski. Et on a appris en regardant les pages des quotidiens lundi matin que Rimouski était plus loin de Québec que Rome. Parce qu'il y avait 4 pages sur la canonisation du frère André et un article sur 10 000 manifestantes à Rimouski, alors qu'on en entendait 5 000. Alors, je sais pas, moi, 10 000 personnes à Rimouski, moi, à Québec, ça aurait donné quoi, 50 000 personnes?
Ouais, c'est ce qu'on pense. On s'entend, là, canonisation, bordel. Le gars, frère André en question, là, il a fait des miracles jusqu'à temps que la télévision existe. Historiquement, ça a été démontré. Là, quand c'est en fait Radio-Canada qui a fait « Bon, ben nous, on amène nos caméras, puis go, ça se passe plus. » Mais là, au lieu, parce que les gens, en fait, en théorie, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils arrivaient, ils étaient soignés, puis ils laissaient leur béquille à l'oratoire. Parce qu'ils étaient soignés, ils étaient guéris. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça marchait plus, vu qu'il y avait des possibilités de caméra. En tout cas, Dieu se sentait mis au défi. Mais ils recevaient les béquilles par la poste. « Ah, je suis guéri, rendu chez nous, man, c'est fou!
» Donc, ouais, là, on est en train de faire comme on se plaint que les médias font. Toujours est-il qu'on en a parlé, on a mis sur notre blog des photos, des vidéos, et là, on a un reportage
femmes, hein.
De la Marche mondiale des femmes, pas de la canonisation du frère André.
Ouais, go,
André Bessette. D'ailleurs, il faut saluer, on le fera pas souvent, là, mais j'ai trouvé ça sympathique qu'Amir Kadir refuse de se joindre à l'hommage du Parlement pour cette chose, en disant qu'il essaie de se tenir loin de toute odeur de sainteté. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que nous avons ramené un reportage. Il y avait 10 000 personnes. C'est énorme. Ça devrait avoir un impact majeur. Il y a eu plus de 300 actions dans la semaine. Malheureusement, les médias, ils ont décidé qu'ils n'en parlaient pas. Ils ont décidé que ça n'intéressait pas les gens. Comme ça n'intéresse pas les gens, ils n'en parlent pas. Et comme ils n'en parlent pas, personne ne sait que ça s'est passé. Bon, bref. Voilà. C'est un reportage qui a été fait par François et Geneviève du collectif Emma Goldman au Saguenay. Donc, François du collectif La Nuit, en fait, de Voix de Fée. Voilà.
Alors, je suis en plein cœur de la Marche mondiale des femmes. Donc, on est à Rimouski. Donc, beaucoup, beaucoup de femmes. Je dirais 95% des gens ici dans la marche sont des femmes. Beaucoup de slogans sont lancés. La bonne humeur est au rendez-vous. Les femmes scandent des slogans, il y a beaucoup de pancartes, beaucoup aussi de statues géantes en carton. Des banderoles, des bannières, des pancartes. Des femmes de tous les âges, des femmes qui viennent de partout.
I'm going to go to the next one. En compagnie de Daniel de la maison communautaire Missinac, c'est ça?
Oui, c'est
donc,
ça.
Une maison qui vient en aide aux Autochtones. Vous êtes une femme autochtone.
Oui.
Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui?
Moi, je suis ici parce que je crois qu'à s'unir avec toutes les femmes pour revendiquer, on a plus de force premièrement.
Donc, l'unité fait la force. Est-ce que c'est difficile d'être une femme et autochtone?
Oui, c'est un peu difficile parce que des fois, on est obligé d'un peu de quitter nos communautés quand on vit des situations difficiles parce qu'on est obligé de s'exiler. On est très, très parents, très, très cousins-cousines. Alors, c'est très difficile des fois de s'en venir dans un milieu urbain comme genre Québec pour recevoir les services. Des fois, tu t'ennuies de tes parents que tu as quittés. Tu t'ennuies de ton monde, de tes racines. Hein? On a besoin de la terre aussi pour se ressourcer. Alors, c'est ça qui est plus difficile pour les femmes.
Est-ce que ça vous arrive d'être victime de sexisme ou de racisme?
Surtout du racisme, parce que les femmes, quand ils se cherchent un logement, c'est plus difficile. Parce que la couleur de notre peau, c'est pas... ça s'efface pas. Fait quand que, des fois, les propriétaires voient que c'est une femme autochtone, donc avec tous les prix préjugés ou à toutes les situations. C'est pas on vit des racistes face à ça. Ça, c'est surtout quand tu vis des situations de pauvreté, que t'es déjà sur l'aide sociale, ça l'augmente encore. Fait que oui, il y a beaucoup d'injustice de ce sens-là.
Okay. Je pense à Richard Desjardins qui a fait un documentaire sur le peuple invisible. Est-ce que vous avez l'impression justement de peut-être d'être invisible?
Je pense qu'il faut commencer à se parler de plus en plus, commencer à avoir des racines ensemble, parce qu'on est dans le même pays, hein, et vous ne nous connaissez pas. Alors nous, à Missinac, on fait des enseignements sur l'histoire, on va dans le cégep, dans l'université, dans le groupe, où ce que les personnes nous demandent. Même hier, on a fait une manifestation à Québec, puis on a fait vraiment pris honneur pour expliquer l'histoire, c'est quoi l'histoire des pensionnats, c'est quoi l'histoire des premiers contacts. Alors, vraiment, il faut prendre le temps de ça. Il faut pas juste dire, on n'est pas en désaccord, mais je pense qu'il faut aller plus loin dans nos explications. Alors, Missinac, c'est un peu ça le but. Puis, la question aussi que j'aimerais ça te répondre, peut-être que tu vas me la poser, mais oui, on va travailler avec les hommes un jour, c'est important. Nous, c'est notre approche holistique, c'est notre manière d'aider et de faire. Les enfants, les hommes font partie de la solution pour arriver à des meilleurs équilibres.
Salut Josiane, pourquoi tu es là aujourd'hui pour la marche des femmes?
On revendique le retour de l'éducation sexuelle dans les écoles, l'égalité salariale, des logements sociaux.
Est-ce que tu te qualifies de féministe?
Oui.
Est-ce que tu t'affirmes comme ça dans la vie de tous les jours?
Oui. Je suis intervenante dans une maison d'hébergement, puis on se montre comme des féministes, en effet. C'est pas négatif du tout.
Qu'est-ce que tu aurais à dire, un message que tu as lancé pour toutes les femmes du monde entier?
Mais il faut continuer de marcher parce qu'il faut continuer de revendiquer nos droits, c'est important. Encore aujourd'hui, en 2010, on n'a pas tout atteint.
Oui, il y a une petite nouvelle dans ce qui a attiré mon attention dans l'édition d'aujourd'hui, mercredi. C'est l'itinérance qui est en hausse à Québec depuis 2 ans, rapporte Chantal Dugas des Jeux de l'Aube-Rivière. En 2009, l'organisme qui accueille des sans-abri a brisé un record, a été obligé de refuser 250 demandes d'hébergement. Puis, de 2010, ça s'annonce au pire, là. Depuis 2009, on connaît des records d'abordement. Il faut qu'ils refusent des gens pour juin, juillet, septembre. Puis la croissance de l'itinérance serait particulièrement forte chez les femmes atteintes de problèmes de santé, tant physiques que mentaux.
Ouais, l'économie d'abord, quoi.
Et oui, c'est ce qui compte. Mm-hmm.
Là, on est supposé de passer en musique ou de passer à Stéphane?
On va passer en musique, mais version écourtée.
D'accord.
Avec une pièce surprise.
La blague anarchiste. C'est quoi la différence entre chercher à sceller une vache et chercher à attendrir un patron? Aucune.
beaucoup d'efforts, aucun intérêt. Quelle est la seule police que les anarchistes tolèrent? C'est celle des fesses. Devinette en série. C'est quoi le fruit préféré du capitaliste? C'est celui de ton travail. Du social-démocrate? L'avocat. Du fasciste? La grenade. De l'anarchiste? La lime pour les barreaux de prison. Le fruit préféré du communiste étatique? La patate. Et enfin, quel est le fruit préféré du conservateur? Les conservateurs, c'est bien connu, ne mangent pas de fruits. Manamana.
Hey, de retour à Voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, et on a notre chroniqueur barbu sur la droite populiste.
Exactement, après cette charmante petite musique de nuit, là, toute douce. Donc, merci Farouko. Et donc, l'idée que j'avais en venant ici pour vous parler de libéralisme et de républicanisme, c'était de répondre un petit peu à un questionnement qui revient souvent, je trouve, ces temps-ci. Notamment dans un film qu'on a présenté mardi dernier, ou mardi de l'anarchie, donc qui s'appelait L'Encerclement ou le néolibéralisme, comment il capture, il met la main finalement sur la démocratie. Et il y avait un des intervenants, Pascal pour ne pas le nommer, qui en fait trouvait qu'il y avait certains liens qui étaient intéressants à faire entre anarchisme et libertarianisme, etc. Ou aussi des critiques du libéralisme qui sont, je trouve, en fait assez difficiles à articuler dans la mesure où on n'en entend jamais parler. On a toujours l'impression que le libéralisme, grosso modo, c'est la même chose qu'un régime moderne. Et puis donc, on a beaucoup de difficultés à argumenter, à essayer de bâtir une sorte de contre-argumentaire contre le libéralisme. Donc je me suis mis un petit peu à chercher la véritable définition du libéralisme. Et puis rapidement, je suis tombé sur un excellent article d'un dictionnaire d'éthique et de philosophie morale. Un article qui s'appelle « Libéralisme et républicanisme » de Philippe Petit. Et dans cet article, que je vais résumer en 3 minutes, vous allez voir, ça va être impressionnant. Donc Philippe Petit, lui, propose de bien remettre les choses en place, puis vous allez voir que...
Philippe Petit.
Donc c'est un auteur qui a écrit cet article, voilà, ça répond à ta question. Et donc lui, ce qui l'intéresse, c'est de bien comprendre en fait la différence qu'il y a entre la modernité. Donc la modernité, grosso modo, c'est virer Dieu, de le remplacer par les hommes qui décident. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'époque moderne, donc les révolutions anglaises, françaises, américaines, etc.
Puis là, on est dans l'époque postmoderne parce que Dieu revient.
Ouais. Et justement aussi, c'était une de mes autres interrogations aussi, c'est qu'en fait, les seuls qui critiquent le libéralisme, à date, aujourd'hui, ce sont les conservateurs. Donc mon idée, c'était d'aller chercher des arguments ailleurs pour critiquer le libéralisme, sans revenir ni à la morale, ni à la religion, qui nous gonfle comme il faut, notamment le frère André. Pas vrai, frère Loco?
Et donc, oh oui.
Ah voilà, je le savais.
Il est à peu près ça, frère.
Donc l'idée, en fait, c'est que le libéralisme, c'est une doctrine qui est quand même assez récente, dans la mesure où elle commence à voir le jour vers 1750, 1760, mais pas avant. Alors que le républicanisme, c'est une doctrine qui est vraiment beaucoup plus ancienne. On en retrouve déjà des traces dans la Rome antique, par exemple. Donc c'est une certaine conception de la République, une certaine conception d'une démocratie aussi, mais qui a été un petit peu passée à la trappe parce qu'aujourd'hui le libéralisme a complètement gagné, on n'entend plus du tout parler de républicanisme, et donc grosso modo le libéralisme s'arroge le monopole de la démocratie.
On n'en entend plus parler du tout ici effectivement, mais aux États-Unis il n'y a pas un parti qui s'appelle républicain. En France c'est pas tous des républicains.
Officiellement effectivement le régime en France c'est pas une démocratie libérale comme on peut l'avoir aux États-Unis, au Québec ou au Canada. Le régime officiellement c'est une république, donc qui tient plus du républicanisme. Mais à l'heure actuelle ça tend à s'harmoniser un petit peu tout ça et on se dirige vers
masque.
Ouais, puis même les formes contemporaines de politique font en sorte que tout s'harmonise autour d'un libéralisme complètement dominant, hégémonique. On parle que de lui. On ne voit que cette perspective-là, finalement, pour vivre ensemble. Donc, ce qui est intéressant, peut-être, il y a plusieurs points qu'on pourrait souligner pour bien comprendre la différence entre libéralisme et républicanisme. Je vais commencer par un premier. On verra si on a le temps de revenir là-dessus une autre fois pour ce qui est des autres points. C'est vraiment le concept de liberté, en fait, qui est au cœur de cette distinction entre le modèle libéral et le modèle républicain. Donc, il y a en fait deux formes de liberté assez importantes, disons, dans les débats philosophiques ou politiques. La première, c'est de poser la liberté comme quelque chose de positif. Donc, c'est-à-dire que tu vas... Bon, on va la définir après, tiens. Donc, une liberté positive et une liberté négative.
Ah, le freedom to, freedom from.
Ça peut ressembler un peu à freedom, liberty aussi, petit peu des analogies avec ça. Donc la liberté négative, c'est une liberté qui se définit essentiellement comme une non-ingérence, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de t'embêter, donc tu as le droit de dire ce que tu veux, tu as le droit de penser ce que tu veux, de t'associer avec qui tu veux, de travailler où tu veux, etc., etc. Donc c'est une liberté qui se définit de sens négatif, c'est-à-dire qu'on supprime des interdictions.
T'es libre de droit.
Ouais, exactement, t'es libre de droit, mais dans les deux en fait on peut retrouver des droits. La liberté donc négative, elle s'arrête là, la liberté positive, elle vise autre chose, qui peut être par exemple la participation à des instances collectives de détermination, donc le politique. Donc c'est une conception qu'on retrouve beaucoup chez les Grecs notamment, dans lequel le fait d'être libre, c'est exactement la même chose que d'être un citoyen. Donc les deux étaient complètement indissociables. Tu étais citoyen si tu exerçais ton droit politique, et là tu étais libre, et quand tu étais libre, tu exerçais ton droit politique. Donc ça, c'était leur conception assez ancienne de la liberté, donc liberté positive. Le libéralisme et le républicanisme, eux, définissent la liberté de façon négative, tous les deux. Donc il y a beaucoup de libéraux qui disent non, les républicains le font de façon positive, mais on va voir que c'est pas tout à fait vrai. En fait, s'ils s'accordent tous les deux pour une liberté négative, là où il y a une différence, c'est que pour les libéraux, ce qui est fondamental, c'est de refuser toute forme d'ingérence dans ta vie. Donc une absence d'ingérence, c'est comme ça que se définit la liberté. Donc par extension, absence d'ingérence, donc de contrainte d'un maître par exemple, etc. Ou tu peux avoir une absence d'ingérence de l'État qui vient dans ta vie pour te brimer, t'opprimer, je sais pas, te priver des libertés, te priver de ton argent par les impôts, etc. Donc ça, c'est la liberté chez les libéraux, donc pas d'ingérence. Au contraire, chez les républicains, on vise aussi la non-ingérence, mais on est capable de toffer un peu, de dealer un peu avec de l'ingérence, dans la mesure où on va préserver des ingérences qui t'empêchent de subir une forme de domination. Donc chez les républicains, c'est ça qui est le plus important en fait, non pas de supprimer toute forme d'ingérence, mais de reconnaître qu'il y a de l'ingérence et de ne garder que celle qui supprime les formes de domination. Donc on retrouve quand même des parallèles avec l'anarchisme aussi, forcément.
Ouais, ben en fait, c'est la question de l'égalité. C'est est-ce que la liberté est antinomique à l'égalité, ou est-ce que l'égalité est une condition de la liberté? Est-ce que c'est les deux faces d'une même médaille? Les libéraux ont tendance à la voir comme étant antinomique.
Ouais, antinomique. En fait, on peut voir même que les libéraux, quand ils sont, disons, radicaux ou consistants dans leurs idées, il y en a même qui vont jusqu'à, en fait, jeter les bases du libertarianisme. Donc, il doit y avoir aucun État, parce qu'il doit y avoir aucune forme d'ingérence, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est vraiment de bien comprendre la nuance qu'il y a entre le fait de refuser absolument toute forme d'ingérence at large, et une autre qui est beaucoup plus pragmatique, finalement, qui va dire, bah non, on est dans une société où il y a de l'ingérence, où...
On est dans une société.
On est déjà dans une société, donc ce que font pas forcément les libéraux, et encore moins les ultralibéraux. Mais donc, il y a des formes d'ingérence, et on va préserver, en fait, toutes les formes d'ingérence qui font en sorte qu'on ne soit pas dominé. Donc, l'ingérence et la domination, c'est pas la même chose. Par exemple, tu peux être esclave, et puis qu'il y a personne qui s'ingère. Donc, t'es complètement dominé, mais personne te l'a suggéré. Toi, t'as choisi ça parce que ça fait ton affaire, t'as pas bossé, tu t'en sors bien avec ton maître, il est cool, pourquoi pas, quoi. Ou au contraire, tu peux avoir énormément d'ingérence, mais pas de domination. Du genre un État qui prélève des impôts, et à ce moment-là, il y a de l'ingérence, mais il n'y a pas de domination. Donc on va s'arrêter un petit peu, ouais, pas mal là-dessus. En fait, le dernier petit point, ce serait de dire que cette critique du libéralisme, c'est aussi la critique de la liberté, comment il disait, le surchoix, là, liberté, je crie ton nom partout. Ouais. Et puis quand on leur demandait ce que c'était que la liberté, c'est le droit de faire ce qu'on veut. Tout simplement, eh ben non, la liberté, c'est pas forcément le droit de faire ce qu'on veut. La liberté, ça peut être aussi de vivre sans domination. Et donc à ce moment-là, ben, il faut peut-être s'organiser pour pas qu'il y ait de domination.
Promis, la prochaine fois que tu viens, on te passe en premier.
On y repasse.
Ah oui.
On en repart.
Vous écoutez Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Passez une agréable semaine. C'était Nicolas avec
Jeannie
et Stéphane.
Et Farouk qui vous dit à la semaine prochaine.